Donc, bonjour et bienvenue à cette petite présentation du dépliant Enfants en sécurité, une responsabilité du personnel éducatif. Dans le fond, ce qu'on va faire, c'est bien simple. À l'aide de votre dépliant, vous allez pouvoir écouter cette petite balado dans laquelle on va faire un tour rapide pour faire ressortir les éléments les plus importants que vous avez à retenir. Donc, ce qui est très important de comprendre, c'est qu'il existe une réglementation obligatoire pour ce qui est de la surveillance dans les aires de jeu en service de garde, où on dit que, dans le fond, le personnel doit surveiller les enfants et leur porter une attention constante, particulièrement lorsqu'ils utilisent les équipements de jeu. C'est ce qu'on va découvrir. Donc, dès la première page, ce qu'on voit, c'est que c'est très important d'assurer une surveillance adéquate des aires de jeu extérieures, principalement parce que 40% des blessures subies sur des terrains de jeu sont liées au manque de surveillance de la part des adultes. Donc, on va parler de fractures, de plaies, de contusions, on peut même parler de commotion cérébrale et de blessures traumatiques, touchant la colonne vertébrale. Donc, c'est la raison pour laquelle on utilise ces stratégies-là. Ensuite de ça, on nous présente les principes de surveillance de qualité. Donc, on va parler d'anticipation du danger, de couverture des coins cachés, d'établissement d'un système de communication, de maintien d'un programme de sécurité, l'application d'une surveillance similaire au mode d'intervention démocratique et de la mise en place du programme PLI. Donc, les principales causes de blessures sur un aire de jeu extérieur sont souvent en lien avec le fait, que c'est à l'extérieur, la situation du multi-âge, le fait que le nombre d'enfants est assez élevé, peut être assez élevé, et les grands espaces qui sont ouverts. Donc, c'est nécessaire qu'il y ait une concertation, qu'il y ait un équilibre dans la communication entre le personnel éducateur pour être sûr qu'il y a une surveillance de qualité en tout temps qui va être éclairée et coordonnée face aux enfants. Les enfants étant des enfants, on doit aussi leur permettre d'être qui sont, donc des individus qui ont besoin de prendre des risques pour pouvoir se développer. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut tout leur interdire, mais c'est vraiment de les encadrer, les surveiller pour s'assurer que le tout soit fait de façon adéquate. Donc, premier principe de surveillance de qualité, on va parler de l'anticipation des dangers tant sur le sol que sur les appareils. Donc, on va dire de vérifier les espaces de jeu avant que les enfants puissent y avoir accès. Donc, idéalement, on va regarder pour retirer les débris dangereux, détecter le vandalisme, surveiller la présence d'animaux sauvages, examiner la condition de la clôture, vérifier la présence de flaques d'eau de surface glacée ou enneigée, et dans le fond, d'identifier les appareils qui pourraient être brisés ou pourraient être à risque, dans le fond, ou inadéquats pour les enfants. Donc, vous comprenez qu'on va corriger immédiatement quand c'est possible, qu'on peut aussi, dans le fond, interdire l'accès pour la sécurité des enfants, et même avoir, dans le fond, une demande de réparation. Étant donné qu'on est responsable dans un service de garde des aires de jeu, c'est très pertinent de se dire que quotidiennement, donc à tous les jours, l'inspection de l'espace devrait être faite avant de donner accès aux enfants. Deuxième point, couverture des coins cachés. Donc, c'est identifier la méthode à prendre pour couvrir visuellement l'ensemble de l'espace de jeu. On va parler de respecter, bien sûr, le ratio enfant-adulte. Et dans un aire de jeu qui va être étendu, où il y a beaucoup de coins cachés, on va prévoir même de rajouter du personnel pour l'extérieur, en dehors du ratio, pour vraiment assurer la sécurité. On va aussi dire qu'idéalement, deux adultes devraient être en présence, et même quand on va faire des sorties à l'extérieur du service de garde, on va même aussi parler de communication, comme d'avoir un cellulaire, souvent un cellulaire du service de garde, pour s'assurer, dans le fond, de pouvoir répondre en cas de situation urgente, peu importe le nombre d'enfants en présence. Le troisième point, donc, on va parler d'un système de communication, de s'assurer que quand un adulte doit quitter l'aire de jeu, d'en aviser les autres adultes en présence pour qu'eux assurent la sécurité des enfants qui sont là et sous la responsabilité de la personne qui quitte. Ça veut dire, je suis dehors, je suis, et le petit Bob me dit, madame, madame, j'ai envie de pipi. Donc, on va s'assurer de, premièrement, demander à tous les enfants qui ont envie, ceux qui veulent y aller, et d'aviser l'éducatrice, les éducatrices qui seraient en présence, de dire, je reviens, je m'en vais aux toilettes, peux-tu surveiller mon groupe? Donc, c'est vraiment la pratique à ne pas oublier de faire au niveau de la communication entre les éducatrices. On va aussi dire d'éviter qu'il y ait plus d'un adulte à la fois qui va quitter l'aire de jeu. Donc, idéalement, un adulte à la fois pour cet aspect-là. Quatrièmement, on va parler de faire jouer aux enfants un rôle important face à leur propre sécurité. Donc, d'enseigner aux enfants c'est quoi être sécuritaire, c'est quoi les pratiques qu'on peut avoir. On peut utiliser des pictogrammes, des causeries, des histoires pour prendre conscience aux enfants du rôle qu'ils ont à jouer, dans le fond, dans leur propre sécurité. Ensuite de ça, on l'a pas vu encore, mais on va parler d'intervention démocratique. Donc, ce qu'on va dire par rapport à la surveillance, c'est de guider les initiatives des enfants. Donc, on ne fait pas que tout décider. La place est à l'enfant, c'est à lui de décider et nous, on va l'accompagner là-dedans dans son expérimentation. Les encourager verbalement dans leur tentative de faire des efforts tentatifs pour progresser à leur rythme. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est pas faire à la place de l'enfant, mais bien l'encourager. Résister à la tentation, bien sûr, de soutenir physiquement. Donc, ils pourront utiliser l'équipement de façon autonome quand ils en auront la force. La barre horizontale, on est un exemple. La traverse de singe, j'avais même parlé de balançoire en classe pour vous illustrer du fait, ben, quand l'enfant sera rendu là, il le fera lui-même. Entre-temps, l'adulte n'a pas à le faire pour lui. Accepter que les enfants s'organisent entre eux, en tout temps observer, être disponible à échanger avec les enfants et intervenir immédiatement en cas de danger. C'est vraiment les stratégies les meilleures à mettre en place. Et ensuite de ça, on a le programme PLAY. Le programme PLAY, donc on parle de 4 lettres. Proximité, P pour proximité, L de leadership, A d'action et Y pour yielding. Donc, proximité, un important facteur dans la surveillance adéquate des enfants. On va parler que plus l'adulte est en proximité, donc en présence immédiate de l'enfant, plus l'adulte va pouvoir les encourager à suivre les règles, faire la promotion d'utilisation sans danger des appareils et faciliter la résolution de problèmes si jamais il y en a. Ensuite de ça, on va aussi dire que l'adulte qui est près des enfants va avoir une meilleure capacité à réagir en cas de situation d'urgence et aussi que, dans le fond, ça témoigne du souci de toujours assurer la sécurité et le bien-être des enfants. Pour ce qui est de leadership, donc on va dire que la proximité de l'adulte le rend disponible à encourager les tentatives de l'enfant à développer de nouvelles habiletés et à se réjouir avec lui de ses succès, d'où l'importance du rôle de leader qu'il a à jouer. Donc, aucun type de jeu ne devrait être interdit. Toutefois, l'adulte leader doit en soutenir les règles permettant à ces jeux d'être vécus en sécurité. Et l'exemple qui est donné, qui est super intéressant, qui est celui de se tirailler. Donc, oui, c'est permis, donc de faire la promotion du faire semblant, de structurer le moment par des règles claires, par un lieu physique déterminé, par une durée aussi déterminée, pour permettre à l'enfant de répondre à son besoin. Donc, on va promouvoir les activités, dans le fond, ou avec des équipements qui vont être appropriés. On va parler de faire la promotion de manipulation au sol, d'aménager des zones plus tranquilles pour les enfants qui en auraient besoin, de s'assurer du respect de la tranquillité de ces zones-là. On va parler d'assurer d'avoir des espaces pour le jeu de rôle, d'assurer d'avoir des espaces pour la motricité globale, et tout ça en laissant l'enfant faire ses tentatives à son propre rythme, toujours en respect de ça. Pour ce qui est de l'action, donc on va parler de la surveillance des enfants en jeu qui demande à l'adulte d'être en action, donc en surveillance active. On va lui dire que c'est important d'être toujours en mouvement, de façon adéquate et aléatoire, aussi imprévisible, tant pour l'adulte que pour l'enfant, pour pas juste développer une certaine routine qui fait qu'on est peut-être un peu moins alerte. Donc, on va souvent parler de rester à l'affût, de vraiment être à même de reconnaître des situations qui deviendraient à risque. Donc, vraiment, le mouvement de l'adulte est super important dans la surveillance adéquate au niveau extérieur. Donc, ce qu'on va parler, c'est du yielding, donc la complaisance. Vous l'avez sûrement déjà remarqué, les nouvelles structures de jeu qu'on va voir à l'extérieur sont assez différentes de ce qu'on connaissait auparavant, où j'aurais parlé de cadre un peu plus justement encadrant, donc qui disait un petit peu à l'enfant qu'est-ce qu'il pouvait faire dans ces jeux-là. Donc maintenant, on a des jeux qui sont beaucoup plus exploratoires, qui permettent à l'enfant vraiment de vivre des défis, puis d'explorer, de grimper, de glisser, de sauter, de découvrir un peu à sa façon l'utilisation qu'il veut faire de cette structure-là. Donc, c'est sûr que c'est des pratiques qui, pour l'adulte qui voit tout ça, peuvent être assez inquiétantes. Mais dans le fond, ce qui est vraiment important de reconnaître, c'est qu'il est essentiel pour l'enfant d'explorer selon ses besoins et ses capacités physiques. Donc, l'adulte évalue le danger potentiel qu'il pourrait y avoir pour l'enfant, va le rediriger aux besoins, mais c'est vraiment de s'introduire dans le voisinage proche de l'enfant qu'il est en train d'expérimenter, puis dans le fond, de l'encourager à faire une utilisation qui va être sans danger, mais qui va toujours permettre à l'enfant de faire des tentatives. Donc, on va être là, on va être proche, on va superviser, on va encourager, sans faire à la place de l'enfant et sans lui nécessairement lui interdire quand il est en exploration. Donc aussi, on va vraiment utiliser le concept du chacun son tour à enseigner, chacun son tour, pardon, à enseigner à l'enfant et d'encourager pour la sécurité, pour réduire les risques de blessures. Donc, c'est ce que ça veut dire le yielding. C'est vraiment le leadership, la façon de se positionner face à l'enfant par rapport à ces jeux-là. Donc, tout ça dans un contexte où on peut être dans la cour du service de garde. Il y a aussi l'utilisation de parcs publics, par exemple, qu'il faut prendre en compte. Donc, lorsqu'on arrive dans un parc public, c'est important de jeter un regard sur la sécurité de l'espace de jeu très rapidement avant que les enfants puissent se rendre dans les surfaces et jouer. Donc, on va regarder principalement sous et autour des équipements de jeu. Donc, ce que ça veut dire, de dire, est-ce que la surface autour, sous, dans le fond, les structures est adéquate en termes de superficie couverte et aussi en termes de surface. Donc, est-ce que la surface est trop dure? Parce qu'on sait que 76 % des blessures sont dues à des chutes sur des surfaces inappropriées. Donc, on va vraiment essayer de vérifier si la surface est adéquate. On va parler de si vous avez l'impression de marcher sur quelque chose qui est assez dur, donc asphalte, béton, terre battue, gazon, ça devrait pas sur trouver sous les surfaces. On parle plutôt de marcher dans une espèce de sensation de plage, de sable, où la capacité d'absorption du sol est beaucoup plus grande. Donc, en cas de chute, ben c'est le sol qui va absorber beaucoup, dans le fond, l'impact de l'enfant, au lieu que ça soit ben l'enfant qui le fasse. Autour, ça fait partie de ça, possibilité de coincement, possibilité de saillie aussi, donc d'espace qui dépasse, puis l'enfant va se cogner ou se blesser. Et les coincements, donc se coincer un bras, une jambe, mais principalement, le problème, c'est la tête. Donc souvent, les enfants vont glisser leur corps dans un espace et malheureusement, c'est la tête qui ne passera pas parce que l'espace est trop petit. Pour ça, donc, on va vérifier les ouvertures qui pourraient être à risque de coincement. Donc, on parle d'insérer la main, le poing fermé. Si on peut le faire avec le poing fermé, alors on ouvre la main et si ça ne passe pas, donc on va parler, donc si les doigts ouverts, la main avec les doigts ouverts ne passe pas, mais là, on parle de trous d'espace, d'ouverture, qui va être à risque que l'enfant reste coincé. Donc, vraiment d'utiliser cette technique-là qui est très rapide, très efficace pour permettre d'évaluer cette situation-là. Et on va aussi parler de danger d'étranglement. Donc, toujours enlever les cordons, les capuchons des enfants. Jamais permettre à l'enfant de jouer avec un casque dans les surfaces de jeu, comme un casque de vélo, par exemple. Et porter des cache-coups plutôt que des foulards pour éviter l'étranglement. Donc, ça tourne pas mal autour de ça et on va parler, bien sûr, de conditions d'entretien. Donc, de s'assurer de régulièrement faire le tour, de voir est-ce que ces surfaces-là sont bien entretenues ou non, sont à risque de blessures pour les enfants. La page suivante vous donne une espèce de liste de questions à vous poser avec regard rapide sur l'espace de jeu pour permettre de dire, ben est-ce que c'est, au niveau de l'entretien général, c'est bon? Donc, on va parler de végétation autour, donc on a parlé de matière toxique l'autre fois. On va parler de grilles de drainage, d'aire de jeu, au niveau, est-ce qu'il pourrait avoir des champignons, est-ce qu'il pourrait avoir des moisissures, est-ce qu'il pourrait avoir des espaces qui seraient à risque de blessure. Donc, petite liste très intéressante à vous poser rapidement quand vous arrivez sur un aire de jeu. Et l'autre aspect, on en a déjà parlé, de la température. Donc, vous avez dans ce cahier-là, le petit dépliant, la charte des indices de chaleur ainsi que la charte des facteurs vent-froid avec la légende où il nous dit, donc, vert, jaune, rouge, où on dit confortable pour jeu extérieur, attention et danger. Donc, c'est quoi une condition verte, c'est quoi une condition jaune et c'est quoi une condition rouge. Donc, vous avez vraiment le détail de chacun de ces aspects-là pour vous permettre de bien comprendre puis d'évaluer la situation quand vient le temps de regarder la température extérieure et de voir si on va jouer ou non dehors. Donc ça, on pourra le voir, on va sûrement le revoir en classe par rapport à cet aspect-là qui est très, très important de bien maîtriser au niveau des services de garde. Enfin, dernier point, vous allez avoir la surveillance active, donc élément clé, archi important. Donc, on va parler d'un positionnement approprié entre les adultes, de regard qui balaye l'ensemble du terrain et des interactions limitées entre les adultes. Donc, positionnement approprié, c'est vraiment le fait d'essayer de trouver un espace qui va nous permettre de couvrir du regard un maximum l'ensemble, les angles de la surface de jeu. Et ça, vous allez découvrir qu'on va faire exactement la même chose à l'intérieur. Donc, dans le local, on va l'appeler souvent vue d'ensemble. On va vous dire, ben, quelle position tu peux adopter dans l'espace qui va te permettre d'avoir vraiment la vue la plus vaste sur l'ensemble de ton groupe. Ce qui est très, très important. On va parler aussi de balayage visuel de l'ensemble de la cour, ou je peux même faire le parallèle avec l'aspect intérieur dans le local. Donc, de régulièrement et fréquemment balayer du regard pour s'assurer qu'on voit l'ensemble des aires, la surface de jeu de l'environnement de l'enfant. Aussi, donc, la responsabilité la plus importante du personnel éducatif, ben c'est de observer puis accompagner les enfants en activité, hein, on s'entend là-dessus. Et malheureusement, ce n'est pas d'être en interaction avec d'autres adultes, comme on peut voir quelquefois. Donc, c'est vraiment les interactions entre les adultes devraient être brèves, devraient être ponctuelles. Quand une éducatrice parle à un autre adulte, ben elle devrait se positionner dans l'espace de façon à avoir le contact visuel avec les autres, pas nécessairement avec l'adulte. Donc, d'être capable d'assurer la sécurité de son groupe. Donc, on a quand même dans l'aspect culturel où on nous dit, on devrait toujours avoir un contact visuel, mais ici, on devrait prioriser le maintien de le balayage de l'espace, le temps de la conversation pour pouvoir au moins assurer la sécurité des enfants. Donc, on va parler de dire, si vous avez à parler, on s'assure de balayer le secteur des yeux, garder le contact physique avec l'autre adulte, mais de faire immédiatement assumer à quelqu'un d'autre les fonctions de surveillance pour être sûr que les enfants sont toujours en sécurité. Donc, on va parler de balayage visuel en tout temps et de diminuer au maximum les possibilités d'interaction en plus d'un positionnement adéquat dans l'espace. Donc, ce dépliant-là a été fait par le regroupement des centres de la petite enfance de la Montérégie. C'est un outil privilégié que vous devriez garder près de votre cœur, ne serait-ce que pour le cours, mais pour le reste de la formation et lors de votre profession, qui va vous permettre d'avoir vraiment rapidement accès à un paquet d'informations pour ce qui a trait à la surveillance et des petits rappels, des petites façons de faire, les chartes pour assurer la sécurité des enfants.